Chapitre 14. Monsieur Chamontin avait mis sa confiance dans la menace de la caisse fermée et aussi dans l'offre de payer toutes les fantaisies que son fils pourrait se permettre. Il fut donc très surpris quand il vit que Gaston, au lieu de profiter de cette offre, ne prenait plus rien à sa caisse. Son fils, son propre fils, restait sourd à la musique de l'argent. Voilà qui devenait significatif et même inquiétant. Évidemment, Gaston, qu'il connaissait bien, subissait l'influence de cette fille qui faisait de lui ce qu'elle voulait. On n'obtiendrait donc rien tant que cette influence ne serait pas détruite et c'était à la démolir qu'il fallait d'abord s'employer. Il était un jouet entre ses mains parce qu'il l'aimait. Il fallait qu'il ne l'aimât plus et pour cela, il n'y avait qu'à la lui faire connaître, à la lui montrer telle qu'elle était. Elle avait eu des amants, cette fille, cela était certain. Elle en avait encore, cela était probable. Pour désillusionner Gaston, il n'y avait qu'à constituer un dossier avec les anciens, comme avec les présents, et à le lui mettre sous les yeux. Plus d'une fois, il avait eu à faire des recherches sur des gens douteux avec qui il était en affaire, et quand les circonstances ne lui permettaient pas d'agir au grand jour, il s'était servi d'une agence qui, ayant pour but ostensible de recueillir des renseignements commerciaux, fournissait en réalité à ses clients tous les autres renseignements qu'ils pouvaient lui demander sur les antécédents, la moralité et la fortune des familles pour les mariages ou autres motifs. Le temps n'est plus où ces agences n'étaient dirigées que par de vulgaires mouchards. Plus d'un fonctionnaire, mis sur le pavé par les révocations politiques de ces dernières années, a dû, pour vivre, accepter n'importe quoi, et par ce fait seul, quelques-unes de ces agences ont, du jour au lendemain, changé de caractère. C'était ainsi que celle qui faisait les affaires délicates de Chamontin, installée dans un bel appartement de la rue du Helder, d'une sévérité tout à fait respectable, avait pour directeur un vrai ancien magistrat qui, pour la correction des manières, la dignité de la tenue et la réserve du langage, ne ressemblait en rien au type de convention que montre le théâtre, en retard sur la vie réelle. Surveillance facile, dit l'ancien magistrat, vie en quelque sorte publique, les renseignements seront précis et concordants, ceux que nous obtiendrons à Noisy et ceux que nous nous procurerons à Paris. En effet, ils furent précis et concordants, ces renseignements. À Noisy, à Chelles, à Lagny, à Coulommiers, à Rozoy, à Mormant, dans toute la Brie, partout où Zit avait passé, elle avait laissé la réputation d'une honnête, d'une très honnête fille, c'était au moins ce que disait la voix publique. À la vérité, cette voix publique parlait aussi du grand amour qu'elle avait inspiré à un comédien de la troupe paternelle appelé Joseph. Mais de l'avis de tous, cet amour avait toujours été malheureux. Joseph l'aimait, elle n'aimait pas Joseph. Si active qu'eussent été les recherches sur cette piste, elle n'avait rien donné. À Paris, on avait eu la chance, pendant un certain temps, d'être sur une meilleure voie. Elle recevait chez elle un jeune homme et elle allait avec lui souvent faire des promenades à la campagne. Et ce jeune homme était son amant incontestablement. Le lundi, ils avaient été à Fontenay-aux-Roses en tramway sur l'Impériale. Après s'être promenés autour du fort, ils étaient restés plus d'une heure, regardant Paris, s'embrassant de temps en temps. Puis, ils étaient entrés dans un petit restaurant ombragé, au haut de la côte de Châtillon, à la tour de Crouy. Là, ils avaient mangé à une table sous les arbres. Leur menu était composé de 4 sous de pain, 6 sous de fromage de Brie, un demi-septier de vin. Le lundi suivant, toujours en tramway et sur l'Impériale, ils avaient été à Villejuif, où ils étaient montés dans le clocher. Ils y étaient restés longtemps. Que s'y était-il passé? L'agent n'en savait rien, car sous peine de se faire brûler tout de suite, il n'avait pas pu monter en même temps qu'eux dans le clocher et ne pas les perdre des yeux, comme dans les champs de Châtillon. En redescendant, ils étaient entrés chez un marchand de vin et, dans un bosquet, ils avaient mangé du jambon et bu un demi-septier de vin. En tramway, 4 sous de pain, 6 sous de fromage, du vin au septier. Évidemment, cet amant était quelque voyou. La conviction de M. Chamontin était faite à ce sujet et n'avait rien d'ailleurs pour l'étonner. N'était-il pas tout naturel qu'elle prît ses amants dans son monde ? Il fallait continuer cette surveillance, grouper une série de fêtes et surtout savoir ce qu'était cet amant. Alors on ouvrirait les yeux de Gaston, la partie était gagnée. Quelle déception, quelle colère, quelle indignation quand, quelques jours après, M. Chamontin avait appris que cet amant, ce voyou, n'était autre que Gaston. Son fils en tramway, mangeant chez les marchands de vin, buvant du vin au cétier. Qu'avait-elle donc fait de lui, cette misérable fille? Il était perdu. Dans son exaspération, Chamontin avait secoué vigoureusement le directeur de l'agence pour ne pas lui avoir dit tout de suite que ce jeune homme qu'on filait était son fils. Mais sans se fâcher, le directeur s'était défendu en faisant remarquer que cet incident prouvait justement l'excellence des procédés employés par sa maison. L'agent chargé de cette surveillance ne sait pas au profit de qui il travaille et par là, toute indiscrétion est évitée. Il doit me dire qui Mademoiselle Duchâtelier fréquente, il me nomme celui qui paraît être son amant. Sa mission est accomplie et je dirais même que sa sagacité est justifiée quand il trouve que cet amant est M. Gaston Chamontin. Mais ce n'était pas de la sagacité de l'agent que Chamontin avait souci. Ce qu'il lui fallait, ce n'était pas le nom de son fils, c'était les noms des autres amants de cette coquine. « En a-t-elle eu d'autres ?» répondit l'ancien magistrat. « C'est possible, bien que l'enquête sur ce point lui soit favorable, mais pour le moment, elle semble n'avoir que celui qu'elle aime. Ces choses-là se voient même avec des comédiennes. Chez elle, Mademoiselle Duchâtelier ne reçoit que M. Gaston Chamontin et c'est avec lui seul qu'elle sort, la surveillance exercée de jour et de nuit le démontre. Au théâtre, les rapports qui me sont faits par des personnes sûres prouvent d'eux-mêmes la parfaite innocence de ses fréquentations. » Il est donc probable que, pour le moment, nous n'obtiendrons rien de ce que vous désirez. Mais plus tard, quand le mariage sera fait. Il faudra bien qu'il se fasse si vous n'avez que ce moyen pour l'empêcher. Mais la surveillance pourra continuer et, si elle donne de bons résultats, ce qui paraît vraisemblable, si l'on considère l'éducation de la jeune personne et le milieu dans lequel elle vit, elle pourra ouvrir une porte de sortie, je veux dire celle du divorce, au cas où d'ici là, vous en voteriez le rétablissement, monsieur le député. Alors, monsieur votre fils redeviendrait libre et il vous serait facile de le marier à votre convenance. Le monde voit d'un œil indulgent et sympathique les jeunes gens qui ont fait des folies. C'est une fleur à leur boutonnière. Le divorce, la belle perspective en vérité. Ce n'était point casser ce mariage que Chamontin voulait, c'était l'empêcher. Serait-il jamais voté le rétablissement du divorce? Quand le serait-il? Un homme de son caractère n'établissait pas ses projets sur des probabilités aussi fragiles. Ce qu'il lui fallait, c'était des résultats immédiats et certains. Aussi, tout en donnant l'ordre de continuer la surveillance, voulut-il agir par tous les moyens à son pouvoir, par les siens et par lui-même. Tandis qu'il chargeait sa femme, sa fille et son gendre de peser de toutes leurs forces sur Gaston, par la tendresse, le dédain et la raillerie, il voulut, l'argent en main, faire une tentative auprès de Zite. Bien qu'il comptât de près en toutes circonstances, jamais il ne lésinait quand son orgueil était en jeu, et jamais il n'avait été plus fâcheusement compromis que par son mariage. Un matin, à l'heure où il avait chance de trouver Zite chez elle, il chargea Madame Chamontin de garder Gaston, de façon à n'être pas exposé à être dérangé par lui, et se présenta à l'hôtel des Médicis. Zite était au travail avec la chapelle quand on lui remit la carte de M. Chamontin. Elle eut un moment d'émotion poignante. Que voulait-il? Quelle lutte allait-elle avoir à subir? La pensée de cette lutte lui rendit le courage. C'était son amour, c'était Gaston qu'elle allait défendre. Elle pria la chapelle de la laisser seule et dit au domestique de faire monter M. Chamontin, qui entra presque aussitôt car il se tenait sur le palier de l'escalier. Tremblante, elle salua en lui indiquant un fauteuil. « Mon nom a dû, mademoiselle, vous faire pressentir ce qui m'amène chez vous. C'est de mon fils que je veux vous parler. » Il la regardait, et comme il ne l'avait vue qu'au théâtre, où les exigences du rôle qu'elle remplissait donnaient à son visage quelque chose d'égaré et de farouche, il fut surpris de la douceur de sa physionomie. Il était de ceux qui croient que les actrices débarbouillées de leur blanc et de leur rouge sont toutes jaunes et fanées, et voilà qu'il la trouvait fraîche et charmante, mais au lieu de l'adoucir, ce charme et cette douceur ne firent que l'irriter, puisqu'il était obligé de reconnaître qu'elle était plus dangereuse encore qu'il ne l'imaginait. « Mon fils m'a parlé de son projet de vous épouser, et je viens vous dire et vous expliquer que ce mariage est impossible, que je n'y donnerai jamais mon consentement, et que, dès lors, il ferait son malheur comme le vôtre. J'ai pour mon fils d'autres visées, d'autres ambitions, auxquelles je ne renoncerai jamais. Sans doute, mon fils pourra me faire des sommations et vous épouser malgré tout. Mais de ce jour-là, il ne sera plus mon fils. Je ne lui donnerai pas un sou, je ne vous recevrai pas dans ma maison, et à ma mort, vous n'aurez rien, ni lui, ni vous, ni vos enfants, de ma succession. J'aurai dénaturé ma fortune, qui ira tout entière à ma fille. Voilà une situation nette, n'est-ce pas, et que vous comprenez. » Elle inclina faiblement la tête. « Donc votre mariage, continua-t-il, ferait mon fils misérable et vous avec lui. Vous n'aviez sans doute pas prévu cela, je tiens à vous le bien expliquer. Avez-vous compris ?»«
Oui, monsieur. » »«
Je viens donc vous demander de renoncer à votre mariage. Mais ce n'est pas sans vous offrir une compensation. Les affaires sont les affaires. » Vous avez pensé en faire une excellente en épousant mon fils, et je vous avoue qu'à votre place, j'aurais calculé comme vous. Je viens de vous démontrer qu'au lieu d'être excellente, elle serait détestable pour vous comme pour lui. Tandis que la compensation que j'ai à vous proposer vous donnera au contraire des avantages certains. J'ai su qu'il y avait eu entre vous et un comédien de la troupe de votre père des relations très... tendres.
Monsieur !
Je sais beaucoup de choses, et si je n'en parle pas, c'est que je ne dis jamais que ce qui est utile. Épousez Monsieur Joseph, et je vous donne en dot 200 000 francs. Elle resta suffoquée.
Je ne suis pas une femme d'affaires comme vous le croyez, balbutia-t-elle. J'aime votre fils, et il m'aime.
Eh bien, aimez-vous, cela m'est égal. Ce que je ne veux pas, c'est que vous vous épousiez. Et le plus sûr moyen est que vous deveniez la femme de Monsieur Joseph. » Après le premier coup qui l'avait étourdi, elle s'était peu à peu remise. « Je voudrais, dit-elle en parlant d'abord lentement, vous répondre avec tout le respect que je dois au père de l'homme que j'aime, malgré le mépris dont vous m'accablez. Vous dites que vous savez bien des choses, cependant vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas une femme d'argent. » J'aime votre fils, il m'aime, et j'ai la prétention de pouvoir le rendre heureux. Je comprendrais qu'il vous fît le sacrifice de son amour, à vous, son père, si ce sacrifice lui était possible. Mais moi, monsieur, pourquoi vous ferais-je le sacrifice du mien ? Pour votre argent, j'ai bien compris. Mais votre calcul n'a pas été juste. On n'achète que ce qui est à vendre. Sans doute, c'est une grosse somme que 200 000 francs, mais si grosse qu'elle soit, elle ne m'éblouit point. Vous pouvez croire que c'est parce que je ne me rends pas bien compte de son importance. Mais fût-elle beaucoup plus importante encore, ma réponse serait la même. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas embarrassée pour gagner ma vie honnêtement, et même je ne le suis pas pour gagner celle de votre fils, mon mari. J'aurais voulu votre estime, j'aurais, par mon respect et ma tendresse, voulu votre amitié. Je ne veux pas de votre argent. »
Comédienne, s'écria Chamontin furieux, vous refusez 200 000 francs parce que vous comptez avoir ma fortune, vous n'en aurez pas un sou.
J'aurai votre fils.
Réduit par vous à la misère, il vous détestera, et pour entrer en grâce auprès de moi, il vous abandonnera.
Je l'aimerai tant que je saurai le retenir.
Dans la misère.
Il y a des misères heureuses.
Vous réfléchirez.
La réflexion ne dit qu'une chose à Zite, c'est que, pour que Gaston l'épousât, malgré la résistance qu'il rencontrait dans sa famille, il fallait qu'il aimât passionnément, et cela seul la toucha. Cet amour était assez grand pour qu'elle ne s'inquiétât point des menaces de M. Chamontin. D'ailleurs, entre le père qui affirmait que sa maison resterait à jamais fermée et le fils qui promettait qu'elle s'ouvrirait le mariage fait,
Il n'y avait pas d'hésitation possible pour Zite, c'était le fils qu'elle croyait, non le père. Ce fut l'explication qu'elle donna à son père et à sa mère lorsqu'elle leur annonça son mariage, et ceux-ci l'acceptèrent en la trouvant toute naturelle. Madame Duchâtelier elle-même, malgré sa prudence habituelle, ses hésitations et ses doutes, n'y fit pas d'objection, tant elle était heureuse de voir sa fille à l'abri des dangers qu'elle avait redoutés. « Cet homme est un parvenu, dit Duchâtelier, et rien n'est plus sottement orgueilleux qu'un parvenu. Il se serait fâché si le duc de Paradan n'avait pas voulu de sa fille, et il ne comprend pas que son fils épouse une artiste. Quelle brute que ces bourgeois! Mais je ne veux pas dire ce que j'en pense, c'est ton beau-père. Ta vengeance sera de le voir à tes pieds. Alors sois magnanime, le beau-père repentant ou la clémence de Zite. Je verrai à bâtir quelque chose là-dessus. Tu me feras monter dans tes belles voitures, dit Marietta. Elle était plus qu'embarrassée pour parler de son mariage à Joseph, cependant elle ne voulut pas qu'il en apprît la nouvelle par d'autres que par elle, ni par son père, ni par la chapelle. Mais il la reçut mieux qu'elle ne pensait. Du jour où il avait vu Gaston, il avait attendu le pire, et ce n'était point le pire qui se réalisait. Puisqu'elle avait résisté à ce fils de famille beau et brillant, c'était la preuve qu'elle ne l'aimait pas passionnément comme il l'avait craint. Elle devenait sa femme, non sa maîtresse, elle ne s'abaissait pas. S'il était anéanti dans son amour, au moins sa foi en elle restait-elle pure d'une souillure. En venant habiter Paris, Madame Duchâtelier croyait qu'elle pourrait reprendre Zite chez eux, et comme elle serait libre, elle se promettait, malgré les railleries de son mari, de veiller sur sa fille. Mais ce mariage enlevait tout intérêt à ce projet. Ce n'était pas la peine que Zite vînt chez eux pour les quitter presque aussitôt. Il y aurait des frais de loyer, d'installation inutiles, et Zite était restée à l'hôtel des Médicis, tandis que ses parents s'emménageaient à Montmartre, sur les hauteurs qui regardent les Batignolles, cet ancien royaume de Duchâtelier où il allait reparaître dans un nouveau rôle. Pendant ce temps, Gaston avait marché vers la majorité fixée par la loi pour le mariage, et les tendres supplications de sa mère, les colères dédaigneuses de sa sœur, les discours pathétiques de son beau-frère, les remontrances amicales de Bacholet, stylées par M. Chamontin, avaient glissé sur lui sans effleurer son amour et sans ébranler sa résolution. Les supplications de sa mère le désolaient, mais ne le convertissaient point. Les dédains de sa sœur lui faisaient hausser les épaules. Au discours de son beau-frère, il opposait les concessions que celui-ci avait été obligé de lui accorder la première fois qu'il avait été question entre eux de ce mariage. Enfin, aux remontrances de Bacholet, il répondait par un mot, toujours le même, « On prend son bonheur où on le trouve ». Et Bacholet restait bouche close, car il avait été éprouvé en ces derniers temps par une série de malheurs qui avaient abattu sa fierté. D'abord, Joyeuse n'était arrivée que mauvaise quatrième dans le derby, puis Capitoline, pour son début, avait été huée et si outrageusement que les moqueries avaient éclaboussé son professeur. Enfin, Adèle Manec venait de se faire voler ses bijoux par son amant de cœur, un vulgaire repris de justice, habitué de Melun, de Poissy, de Gaillon, et tous les journaux avaient, à cette occasion, parlé de Bacholet de façon à lui faire regretter d'être l'abonné de l'Argus de la presse. Encore quelques jours, et Maître Lejeunet de la Crochardière et son collègue, notaire, allait notifier à M. Pierre-Désiré Chamontin le premier acte respectueux exigé par la loi. À ce moment, Faré était venu passer une semaine à Paris et, en lui annonçant son mariage, Zite lui avait demandé de tenter une dernière démarche auprès de M. Chamontin. Le jour de la première sommation, Gaston quitterait la maison paternelle pour n'y rentrer peut-être jamais. Ne fallait-il pas tout risquer pour prévenir cette rupture ? Dans son entretien avec M. Chamontin, elle avait mal plaidé sa cause. Faré, plus habile, pouvait réussir. Et Faré, qui trouvait que Zite serait une charmante femme pour Gaston, sans qu'aucune indignité l'empêchât d'entrer dans l'illustre famille des Chamontins, n'avait pas refusé cette mission, il tenait à rendre service à Zite. Et puis, d'un autre côté, la scène avec ce parvenu serait curieuse. À sa lettre demandant une entrevue, M. Chamontin lui avait répondu par une invitation à dîner. « Nous causerons après le dîner », était écrit au bas de la carte d'invitation. « Quelle drôle de manière de traiter une affaire de cette importance !» s'était dit Faré. Mais il n'avait pu qu'accepter et, aujourd'hui, à 7h30, il avait sonné à la grille de l'hôtel Chamontin. Dans le hall, il trouva une haie de laquais à la livrée bleu ciel et or, qui, sous la coloration intense tombant du vitrail, avait tout à fait grand air. Et, marchant aussi lentement que possible, en jetant rapidement autour de lui des regards circulaires qui embrassaient tout, il traversa une enfilade de salons rouge et or, bleu et or, blanc et or, éclairés par des lustres en or ciselé, et tout plein d'un faste éblouissant auquel on avait demandé de crier avant tout la richesse du maître de cet hôtel. En regardant les tables et les consoles en bois doré, à dessus de malachite, les tentures, les glaces de Venise, les bronzes, les porcelaines, les ivoires, il pensait au temps où, pauvre chroniqueur, il était obligé d'inventer les élégances mondaines qu'il décrivait longuement dans son journal sans les avoir jamais vues, au hasard de l'imagination. Enfin, dans le grand salon tendu de tapisseries des Gobelins, adossé à une haute cheminée sculptée, surmonté du buste du maître de la maison, se tenait Chamontin qui, en entendant le nom de Faré jeté par l'huissier, daigna faire quelques pas au-devant de son invité et, après lui avoir serré la main, le présenta à Madame Chamontin, assise sous un palmier qui occupait le milieu de cette vaste pièce. Faré arrivait le premier, ce qui permit à Chamontin de s'occuper de lui exclusivement et de lui nommer les convives qu'il allait rencontrer. D'abord son Altesse impériale, le grand-duc Basile, qui sera heureux de vous connaître, car il est un de vos admirateurs. Puis Richard Larmini de Chicago, qu'il est bon que vous voyez, car c'est l'homme du jour. Il y a 8 ans, il était garçon boucher. Aujourd'hui, c'est un des plus riches commerçants en grains de l'Amérique et, à coup sûr, le plus grand marchand de viande du monde. Il tue 1000 bœufs par jour et je ne sais combien de milliers de porcs qu'il expédie dans les États-Unis au moyen d'un système de wagons dont il s'est rendu l'acquéreur et dans lesquels la viande se conserve aussi fraîche que si elle sortait de l'abattoir. Vous me remercierez de vous avoir mis en relation avec lui, c'est quelqu'un. Nous avons aussi Revel, Jean Renard, Falco, puis Casparis et Glorian qui travaillent en ce moment pour moi. L'entrée d'un groupe de convives interrompit cette énumération curieuse. Évidemment, c'était bien plus en l'honneur de Richard Larmini que du grand-duc Basile que ce dîner était donné, et ces grands noms de la science, de la musique, de la statuaire, de la peinture, Revel, Renard, Falco, Casparis, Glorian, n'étaient pour Chamontin que ceux de menus seigneurs des cœurs, invités pour faire cortège à l'ancien garçon boucher, devenu l'homme du jour. Il se fit attendre un bon quart d'heure, l'homme du jour, et, à table, où il occupa la gauche de Madame Chamontin, il parla haut et ferme, en émaillant son français nasillard de locutions picardes et normandes qu'il avait apprises dans les prairies du Manitoba lorsqu'il y faisait son apprentissage de boucher et servait ses pratiques canadiennes. Il semblait qu'il fût le roi de la table et que la gloire de la naissance comme celle du talent ne comptasse que pour bien peu à côté de celle de l'argent. Et en l'écoutant, en le regardant, Faré se disait qu'il ne s'était pas trompé quand il s'était dit que ce dîner serait intéressant. Le luxe seul de la table, avec son surtout en argent sculpté et ciselé par les frères Fanière, avec ses vases, ses candélabres, ses salières, son argenterie, était une curiosité. Mais ce qui n'était pas moins caractéristique pour qui avait l'esprit d'observation, c'était l'attitude des convives. Le grand-duc ne disait rien, ou presque rien, les savants et les artistes échangeaient quelques mots entre eux d'un air ennuyé, le duc de Paradan était complètement glacé, Gaston sombre et absorbé. Seuls le Yankee et Chamontin se renvoyaient gaiement la balle, épanouis dans leur satisfaction, tandis qu'autour de la table, les domestiques, avec l'habit noir et la chemise à jabots de dentelle, en nombre égal à celui des convives, faisaient le service rapidement, discrètement, ne manifestant leur présence qu'en prenant les plats et en versant les vins qu'ils nommaient, avec le respect dû à leur origine, Château Yquem 1847, Château La Rose, Château Lafitte, Romanée Saint-Vivant, Claude Vougeot, Roederer glacé. C'était l'usage que, dans les jours de gala, on monta fumer dans une longue galerie qui ouvrait ses fenêtres sur le parc Monceau et qui était en quelque sorte le musée de l'hôtel. Ce qui, plus encore que les curiosités, les objets précieux et les tableaux, lui donnait ce caractère de musée, c'était que, sur les vitrines, se fermaient des volets de tôle, comme à Cluny. « Votre Altesse voit que j'ai pris mes précautions contre les voleurs, » disait Chamontin en faisant les honneurs de sa galerie au grand-duc et à l'homme du jour. « Mais je les ai prises aussi contre les révolutions. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. » Et il montra, rangé dans des tiroirs, toute une collection d'étuis et, debout dans les encoignures, des gaines en cuir. Ces étuis et ces gaines, dit-il, sont tous numérotés, les numéros sont reportés sur les objets des vitrines et sur les tableaux. En cas de révolution, tout est emballé ou roulé en quelques heures et mis en sûreté dans un endroit où on n'ira pas les chercher. Aimable pays, dit l'Américain. Il serait plus juste de dire terrible époque, répliqua le grand-duc. Dans une vitrine, l'Américain avait pris une figurine de Tanagra et il la retournait dans ses larges mains en disant « La jolie poupée !» Tout à coup, il la laissa tomber sur le tapis où elle se cassa en trois morceaux. « Tiens, j'ai cassé la poupée !» dit-il en riant. Caspharis, désespéré de ce meurtre, s'était baissé pour la ramasser. Chamontin le retint en poussant du pied la statuette. « Mais on peut la recoller, » dit Caspharis. « Ce n'est pas la peine, » répondit Chamontin superbement. « Je n'admets pas de pièces raccommodées dans ma collection. » Les convives ne s'attardèrent point. À 10h30, tout le monde était parti, à l'exception de Faré. « Maintenant, nous pouvons causer, » dit Chamontin. « Passons, si vous le voulez bien, dans mon cabinet. » Quand ils furent assis, Chamontin prit les devants. « C'est de mon fils que vous voulez me parler, n'est-ce pas? Et c'est dans son intérêt que vous m'avez demandé cet entretien? Je ne suis pas assez l'ami de M. Gaston pour me charger de ses affaires, mais je suis assez celui de Mlle Duchâtelier pour me présenter en son nom. C'est d'elle que je désire vous entretenir. Accepte-t-elle mes propositions? Alors, c'est une affaire entendue. Je ne sais à quelle proposition vous faites allusion. » Votre fils l'aime, elle aime votre fils, et dans ces conditions... Dans ces conditions, il est inutile d'aller plus loin. Qu'avez-vous à lui reprocher? N'a-t-elle pas... Elle a tout, je vous l'accorde. Alors, elle n'est pas dans notre monde. Vous venez de voir quels sont mes hôtes, et c'est un peu à cette intention que je vous ai prié à dîner. Croyez-vous que je puisse les faire asseoir à côté de Mlle Duchâtelier, ma belle-fille? Situation oblige. Sur ce grand mot, M. Chamontin se leva. « Je vous demande la permission de ne pas entendre votre plaidoyer, » dit-il. « Je suis sûr qu'il sera très éloquent, plein de cœur. Mais vous savez comme moi que les discours n'ont d'effet que sur ceux qui sont convaincus d'avance. »